Léon Sazy, Les tueurs de mannequins. Chapitre 1er, À la belle étoile. Martin Dumas m'avait dit très aimablement, « Oh, ce soir, on vous assassinera !» Je n'étais guère enchanté de cette perspective, malgré tout le plaisir qu'il me promettait en outre de faire avec moi le voyage dans l'au-delà, car lui aussi devait être encore une fois tué en même temps que moi. Mais lui, il avait l'habitude. Moi, c'était la première fois qu'on allait me tuer. Et dame, quand on meurt pour la première fois, on a beau dire vraiment, ça vous fait quelque chose. Après cette promesse d'excellent ami, il roula une cigarette, l'alluma tranquillement et ajouta. Oh, je comprends, mon cher Courville, que vous soyez quelque peu ému à cette annonce d'assassinat. Vous n'avez pas encore, comme moi, l'habitude d'être tué. Voici en effet la troisième fois que ces bandits m'ôtent la vie. Je suis le triple mort. Joli record. Oui, je suis curieux de voir comment ils vont s'y prendre cette fois pour nous trépasser. Et je gage que cela vous intéressera aussi grandement de voir la façon dont ils vont vous oxyre. Je le crois. Et vous serez sans aucun doute le premier et certainement le seul reporter qui racontera son assassinat. Ça ne manquera pas d'originalité. Mais nous avons encore devant nous quelques instants. Il est un peu trop tôt pour entendre sonner notre dernière heure. Profitons de ce répit. Martin Dumas nous dit alors, « Repassons au tabac, ce qui dans la police est une manière d'occuper ses loisirs. Revenons, mon cher Courville, à votre cigarette. » Il reprit le bout de cigare que je lui avais remis et nous dit « Cette cigarette renferme divers produits dont l'énumération serait trop longue et parfaitement inutile. » De la poche de son gilet, il tira un canif à lame très aiguisée. Adroitement, en long, il fendit le papier de la cigarette. Sur une feuille de son carnet, il étala le tabac et l'examina attentivement au moyen de sa fameuse loupe qui apparaissait à toutes les occasions sensationnelles et il nous dit « Voyez-vous ces petits brins d'herbe sèches qui ont l'air d'être des bouts de paille hachés, un peu moisis, des rainures de foin avant réavariées. C'est l'écorce d'une liane que l'on récolte dans les Indes. Le nom européen de cette plante n'existe pas et son nom indien, très compliqué, m'échappe. Bon, laissons le nom. Elle est d'ailleurs encore assez peu connue et ne se trouve que dans les laboratoires tout à fait spéciaux. Son usage en thérapeutique est mal défini. Son emploi n'est pas exactement établi et son action est seulement appréciée des chimistes s'occupant de stupéfiants. Bon, aux Indes, elle est cueillie avec un certain cérémonial mystérieux, surtout par les fakirs. Ceux-ci l'emploient au moment où ils vont se mettre en transe pour paralyser leurs nerfs, pour provoquer chez eux cette rigidité cadavérique et cette insensibilité extraordinaire, étonnante pour ceux qui les veulent faire leur passe, accomplir leur mystère. Oui, éternelle comédie. Et dans les temples hindous, parmi l'encens, on brûle quelque peu de cet écorce de liane séchée et râpée. L'effet est immédiat chez les fidèles qui aspirent cette fumée. Très adroit. On les voit se prostrer, s'étendre à terre et se plonger dans une sorte d'extase qui n'est qu'une leçon en façon de sommeil comme celui que procure l'opium. Mais bien plus prompt et plus puissant, les fakirs, eux, mâchent de cette liane, l'avalent en boulettes. La bonne dose. et aussitôt leurs nerfs deviennent insensibles, leur cerveau se paralyse et ils peuvent s'étendre sur des lits de clous, marcher sur du verre cassé, sur des lames de couteau, s'endormir dans le feu, sans percevoir la moindre sensation, sans même se douter du supplice auquel ils se livrent en l'honneur de la divinité Shiva, déesse du sang. Devant les yeux stupéfaits et émerveillés des foules ignorantes ou des Européens, que ce spectacle, malgré tout, étonne et déconcerte. C'est compréhensible. Quelques brins seuls de cette plante mélangée à ce tabac, mon cher Courville, vous y plongez dans un sommeil immédiat qui, comme vous m'avez dit tout à l'heure, que vous le redoutiez, n'a pas été de longue durée, certes, mais qui se fut suffisamment prolongé pour que ces misérables eussent eu le temps de faire leur coup. C'est ce que j'ai voulu éviter. Oh, ils auraient eu le loisir ou de vous fouiller, de prendre vos papiers, de voir s'il n'y avait rien de vous concernant, ou alors de vous faire avaler une bouteille de strychnine ou de vous jeter sur la voie, enfin de commettre enfin de ces crimes qui restent dans l'esprit des populations comme un de ces mystères à jamais insondables et font l'effroi des voyageurs des lignes de chemin de fer. Mais pourquoi s'attaquer à moi ? Parce que vous êtes Courville, mon ami. Est-ce une raison ? Mais c'en est une pour ceux qui n'en ont pas besoin pour commettre un crime. Oh, les misérables ! Ils savaient que vous veniez me rejoindre. Peut-être vous croyait-il porteur de documents pour moi, ou bien voulait-il, par cet assassinat, stupide et lâche, me montrer une fois de plus, et combien douloureusement leur puissance. C'est possible. Mais vous avez échappé à ce grand et réel danger. Remercions le ciel. Martin Dumas, alors, ploya la feuille de papier précieusement, la glissa dans son portefeuille en disant « Bon, j'ajouterai cela à ma collection. Je vous remercie, mon cher Courville, de m'avoir fourni ce document. On ne peut plus intéressant. » « En somme, m'écriai-je, je l'ai échappé belle ce soir. »« Oui, oui, mon cher ami, seulement, vous me faites souvenir que voici l'heure où vous devez mourir. » »« Alors je n'échappe donc à un danger que pour tomber dans un autre. »« C'est la loi de la fatalité. » Préparez-vous donc à cette nouvelle épreuve, la dernière. Je suis prêt. Recommandez votre âme à Dieu et surtout, suivez bien les instructions que je vais vous donner. J'avais remarqué, étendu au pied de mon lit, divers effets dont je n'avais pas tout d'abord compris la présence et l'utilité. Voici, me dit Martin Dumas, un costume qui vous ira à merveille. J'ai fait préparer pour vous par Prosper. Vous allez le revêtir après vous être déshabillé comme d'habitude, comme si vous alliez vraiment vous coucher, vous mettre au lit. Et après avoir jeté sur une chaise ou sur le fauteuil le veston ou le pantalon que vous portez. Et ensuite, demandai-je, ensuite, bien vous allez nous suivre. Nous allons vous mener au sacrifice, puisque ce soir, c'est la nuit d'assassinat. Pendant que Martin Dumas me parlait, Prosper s'était approché du lit. Il avait défait les couvertures et, sans aucun respect pour les draps blancs, il s'était bel et bien couché tout son long, et il pressait tant qu'il pouvait sur le matelas afin d'y tracer ce creux dans lequel, voluptueusement, on aime s'étendre et goûter les douceurs du sommeil. D'un placard, Martin Dumas tira une sorte de mannequin qui se ployait en plusieurs morceaux. Il raccorda les morceaux, en fit un homme, et il posa le tout dans le lit. Sur ce mannequin, on rabattit les couvertures pour l'occasion, on coiffa le mannequin d'une perruque sous laquelle s'adapta une sorte de masque en cire, ressemblant étonnamment à quelqu'un de ma connaissance, et qui n'était autre que moi-même. On posa le tout sur l'oreiller et on le tourna du côté du mur. « Regardez-vous dormir, mon cher Courville, me dit Martin Dumas. Voyez quel bel aspect vous avez, comme il serait dommage de vous éveiller. En effet, mais ces gens-là ne respectent rien, pas même le sommeil du plus brillant de nos reporters, le sommeil de l'innocence. » Alors nous quittâmes ma chambre. Martin Dumas et Prosper m'entraînèrent et nous gagnâmes la chambre qui était réservée au roi des détectives. Là, également, dans le lit, dormait un mannequin dont le masque reproduisait les traits du peintre paysagiste que l'on voyait constamment errer sous les arbres centenaires de la forêt de Fontainebleau et sur les berges fleuries de la Seine. Peintre qu'il était, nous le savons, que mon bon ami Martin Dumas. Nous attendîmes ensuite quelques instants, puis Martin Dumas, ayant consulté sa montre, nous dit « Mes amis, voici l'heure où le crime va se commettre. Il faut cette fois que nous égalions les carabiniers de l'opérette, que nous arrivions tout à l'heure trop tard. Pour cela, il faut que les gens de justice que nous sommes déguerpissent au plus vite afin de laisser aux assassins le temps de commettre leur ignoble forfait. » Une réflexion me vint à ce moment et je demandai à Martin Dumas « Mais enfin, mon cher ami, puisque vous savez qu'on va ou qu'on doit commettre un meurtre, pourquoi fuyez-vous et m'empêchez-vous pas ce crime de s'accomplir, même en effigie ?»« Ah ah, bonne question !»« Et pourquoi n'arrêtez-vous pas ceux qui vont en rentrer ici ?» Et ne mettez-vous pas vos mains puissantes au col de ces misérables. » Martin Dumas me regarda de ses yeux gris et froids, et de sa voix tranchante, il me dit « J'ai besoin encore que ces gens agissent en liberté. » Je n'avais rien à répondre. Cependant, il ajouta « Si j'arrêtais ici ces deux malfaiteurs, cela ne m'avancerait à rien. » J'aurais simplement arrêté des comparses, des individus en somme sans importance. Tandis que je veux arriver au chef, à celui qui commande, au compère de l'homme aux ongles bleus. Ah, je comprends. Ce n'est pas la main qui frappe que je veux prendre, c'est le cerveau qui gouverne. Voilà pourquoi il est nécessaire que ce soir, le crime puisse être commis en toute tranquillité. Ah bien, les malfaiteurs qui vont venir ici doivent avoir toute liberté et tout loisir d'entrer et de sortir de la maison, après nous avoir poignardés, vous, Prosper et moi. Ils doivent s'en aller, croyant avoir accompli leur haut exploit et courir glorieusement regagner, sinon leur caverne, du moins leur lieu de rendez-vous, en nous indiquant à nous le chemin qu'il nous faut prendre pour aller les chercher définitivement dans leur repère. » Dans la maison régnait le plus grand silence que coupait seulement incessamment à intervalles réguliers le tic-tac monotone d'une vieille horloge de campagne. Parfois un craquement de boiserie, puis le silence retombait plus grand. Aucun bruit ne venait du dehors. La nature semblait aussi goûter un repos absolu. Sous la nuit claire, la Seine coulait lentement, majestueusement, gardant toujours l'allure pleine de noblesse de son flot demeuré royal, comme dit le poète, en dépit des changements de régime. Elle passait au milieu des terres qu'elle daigne traverser, sans souci des nouveaux maîtres pour qui elle contente à passer. La brise à peine sensible n'éveillait pas les feuilles de la forêt. Elle avait eu sa chanson. C'était la nuit sereine, la douce nuit. « Vraiment, me dit Martin Dumas, il est dommage de dormir quand il fait si beau. » Nous partagions son avis et nous goûtions un grand plaisir à nous trouver ainsi dehors, bien éveillé, aspirant à plein poumon cet air frais, exquis, réconfortant et chargé de senteurs délicieuses. Prenons un peu de cette force, de cette vie que la terre envoie à ses enfants, ses robustes garçons, les gros arbres, ses filles chétives, les plantes et les fleurs, nous dit encore Martin Dumas. On comprend ainsi la fable mythologique du géant, fils de la terre, luttant contre le dieu méchant et reprenant des forces chaque fois qu'il touchait sa mère. Ce symbole est clair, logique, comme tout ce que nous ont laissé les anciens en fait de croyances religieuses. Ce dieu méchant, c'est la maladie sous toutes ses formes qui étreint l'humanité infirme, dès qu'elle s'écarte de la terre, sa mère, dès qu'elle entre dans une vie factice. C'est le rhume, la grippe, la phtisie qui s'empare de ceux qui, par peur de ce qu'ils appellent des courants d'air, se calfeutrent chez eux, ferment leurs croisées avec des bourrelets, des tentures, et au lieu de se nourrir d'air renouvelé et vivifiant, respirent un air déjà respiré et s'empoisonnent eux-mêmes du poison de leurs poumons. Et il ajouta : Croyez-vous que nous ne sommes pas mieux que dans nos chambres, et pensez-vous que ce serait pas faire œuvre salutaire que d'instituer un corps de veilleurs de nuit qui s'en irait par les rues de Paris et autres villes crier aux gens imbus de sots et pernicieux préjugés : Bonnes gens, ouvrez vos croisées, l'air est bon, la nuit est belle. Oui, répondis-je, de sorte que les noctambules à ce compte doivent se mieux porter que ceux qui prudemment sont rentrés se coucher le bonheur, selon le précepte d'une bonne hygiène, ancienne formule. Ils devraient en effet se mieux porter, mais mon cher Courville, les noctambules, parlons de Paris, mais les noctambules ne sont pas dehors au bon air. Ils sont dans les cabarets, dans les restaurants de nuit, où l'air est 100 fois plus mauvais qu'ailleurs. Au dehors, c'est le froid sain, c'est l'air vif. Au dedans, c'est un mélange de senteurs de cuisine, de champagne, de liqueurs fortes, de tabac anglais, de boissons américaines et de parfums allemands, des tristes femmes de plaisir. Martin Dumas sourit. Sans compter les airs viciés et vicieux des inévitables jazz qui vous assassinent de mesures à cadence coupée, criardes, bruyantes, à faire hurler les chiens du quartier. Mais comment voulez-vous, mon cher, qu'à ce régime-là, on n'ait pas mal aux cheveux quand on ne les a pas perdus? Nous sommes en effet 100 fois mieux ici, et je suis très heureux de veiller pendant cette nuit. D'ailleurs, vous êtes dans votre lit, hein, et vous reposez consciencieusement. En effet, en effigie.